I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras.
Bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Jérémy Fauchou.
Bonjour.
Et bonjour Jérémy. Et nous allons parler en fait de ton documentaire. On va pas parler d'un film, on va parler de ton documentaire, celui que tu as réalisé qui s'appelle Action Woman et qui est diffusé sur Ciné Plus Frisson.
Ciné Plus Frisson.
Mardi 10 mars.
Ouais.
À 19h50.
Voilà.
Voilà. Alors, on va, pour ceux qui ne te connaissent pas et du coup ne nous connaissent pas ensemble, on est amis en fait, toi et moi, donc on va être assez transparents sur l'affaire, on a déjà bossé ensemble.
Oui.
Voilà, et c'est une prod d'Empreinte Digitale qui a produit voilà. Pas mal de choses avec eux, on travaille pas mal avec eux, donc c'est Joachim Landau à la prod, Isabelle Dagnac, Anna Dessuan, il y a aussi des amis au générique, hein, il y a Thomas Capot à la musique, Vincent Heyer au montage. Il y a des intervenants qu'on connaît aussi, comme Perrine Kenson. Voilà, donc c'est une grande famille.
Oui, voilà.
Voilà.
On va être transparent.
On est transparent là-dessus.
Benjamin Ganteil et Pierre-Alain Sautré à la DA.
Jean Théillon, bien sûr.
Ouais, ouais. Jean-Jean.
Mais en fait, il fallait quand même qu'on en parle parce que c'est quand même un documentaire, on va préciser ce que c'est. C'est quand même un documentaire en fait sur les femmes d'action.
Voilà.
Donc bon, quand tu fais une émission qui s'appelle Stéroïdes et que tu parles pas de ça, c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc moi, la première question que j'allais te poser par rapport à ça, c'est voilà, pour quelqu'un qui sait pas du tout. Dans quoi se jette le docu? Comment est-ce que tu le présenterais? Quel était l'angle d'attaque? Et de quoi tu voulais parler en te lançant là-dedans, quoi?
Alors, le documentaire, il a une genèse un petit peu particulière, parce que si on remonte vraiment, il y a eu beaucoup de versions, en fait, de ce film-là. Parce qu'on est parti, au départ, je voulais faire un film sur le renouveau du cinéma d'action. Donc, j'avais toute une partie sur... Jason Statham, Scott Adkins, The Rock. Et après, j'avais toute une autre partie sur les nouvelles femmes du cinéma d'action.
D'accord.
Et notamment Charlize Theron, Jennifer Lawrence et d'autres qui en découlent. Et en fait, si tu veux, je te tutoie.
On se connaît.
Et du coup, si tu veux, c'est que le Joachim, le producteur, il m'a dit que ce serait... Et je pense qu'à raison, hein. Il m'a dit que ce serait plus intéressant de vraiment l'axer vraiment sur vraiment les femmes dans le cinéma d'action, qui était un angle qui était peut-être moins vu, etc. Et puis d'avoir cet angle sur les gros bras, mais féminins. En tout cas, les icônes, les héroïnes
du cinéma d'action,
iconiques
quoi.
du cinéma d'action. Et du coup, je suis parti écrire avec Jas, que tu connais bien aussi.
Ouais.
Donc,
De Rocky Rama.
De Rocky Rama. Et,
enfin, notamment, ouais.
Qui bosse pour Rocky Rama, mais avec qui moi j'ai fait beaucoup de films ça. Jacinto Carvalho, qui est l'autre binôme de Jas et Yohan. Et du coup, on est parti, on a écrit donc ce film, et à la base, il était peut-être plus thématique, entre guillemets, c'est-à-dire c'était plus un documentaire sur le cinéma à part entière, en tout cas sur les différentes icônes, à travers le temps, à travers les époques. On partait plus du cinéma asiatique pour vraiment, quelque part...
Brasser un portrait, quoi,
ouais,
en fait.
Brasser un portrait de l'héroïne du cinéma d'action. Et ensuite, moi, quand Jas est parti, parce qu'on devait le réaliser tous les deux, Jas est parti sur un autre film, donc il n'a pas eu le temps de le faire. Et puis, on a commencé. Enfin, moi, je l'ai repris, et puis vraiment, pour le faire mien, quelque part. Et là, on a commencé. Enfin, moi, j'ai commencé à vouloir travailler. pas que sur, entre guillemets, les différentes représentations des icônes du cinéma d'action, mais plutôt l'amener sur les vraies femmes qui font l'action et notamment les cascadeuses. Voilà. Et c'est pour ça que le film s'est petit à petit transformé pour faire un vrai film finalement sur les cascadeuses à Hollywood.
Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec l'approche justement du film, c'est que en passant par cet angle-là, tu mets en lumière des personnalités qui sont pas mises en lumière du tout à Hollywood. Il y a tout un débat autour du fait qu'il n'y a pas d'Oscar pour les cascadeurs, donc par extension pour les cascadeuses aussi. Donc et ensuite dans ton casting. Je retiens surtout Debbie Evans qui est quand même un peu la limite,
la légende quoi.
Voilà la légende, la matriarche en fait du groupe quoi, de ton film quoi. Mais il y a d'autres personnages. Voilà, est-ce que tu peux, alors voilà, j'ai pas retenu forcément tous les noms, mais est-ce que tu peux me dire par exemple quels sont les autres?
Alors il y a Natasha Hopkins qui était la doublure de Zoe Kravitz sur Mad Max Fury Road, entre autres, hein, parce qu'elle a fait beaucoup d'autres choses. Mais il y a Janene Carleton qui était la doublure d'Angelina Jolie sur Salt et puis sur d'autres choses. Elle a doublé comment elle s'appelle, Kate Beckinsale sur le Underworld, et puis elle a aussi pas mal, je sais plus qui jouait dans ce film formidable hein, qui est le remake de Total Recall fait par
c'est Kate Beckinsale
aussi. Et du coup,
de toute façon, après, c'est des types, parce que ça se voit aussi. C'est-à-dire
oui,
que, à part Debbie Evans, justement, qui, pour le coup, en fait, a doublé Sarah Connor, c'est-à-dire Linda Hamilton sur Terminator 2, mais aussi
Michelle Rodriguez
dans Fast and Furious. Bah, alors, et Trinity, Carrie Ann Moss sur Matrix Reloaded.
Bah, alors, le truc avec Debbie Evans, c'est qu'elle a une particularité aussi, c'est que c'est une... Elle fait... Bon, même si elle a fait de la cascade, c'est-à-dire des chutes, du combat et tout ça. Sa spécialité, c'est la voiture et la moto, en tout cas tout ce qui est cascade en voiture et tout ça. C'est ça sa spécialité.
Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est quelqu'un qui faisait du motocross en fait dans les années 70, et c'était quasiment une des seules à faire ça de manière professionnelle dans ce milieu-là à l'époque, quoi.
Ouais. Là, en fait, elle a une carrière avant, mais bon, assez jeune, parce qu'elle rentre dans le cinéma, elle a quoi, 17-18 ans, mais elle a une carrière elle fait du trial, en fait, à la base.
D'accord, ouais.
Et tu sais, et puis, aux États-Unis, c'était assez, répandu de monter sur des bagnoles, de faire des shows de cascade, là, tu vois, dans des arènes, et puis, voilà, donc elle faisait ça. Et du coup, après, elle a été repérée, mais... Il cherchait une nana pour faire des cascades en moto, justement, et du coup, elle s'est présentée.
C'est assez marrant parce que dans le film, elle raconte qu'elle a vu une première, je sais plus c'était quoi le film en question, mais elle a vu une cascade, c'était censé être un personnage féminin. Et elle voit que c'est un mec en fait qui est taillé trois fois plus large et tout, et elle dit mais je peux le faire ça, pourquoi il m'engage pas moi.
Il demande pas parce que... Bon alors après, c'est expliqué dans le film, il y a toute une partie où...
Mais les gens le verront.
Mais les gens le verront, du moins je l'espère.
Ouais.
Mais il y a toute une partie, dans le film où on parle de ça. C'est-à-dire que dans les années 70, mais presque encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que plutôt que de prendre une femme cascadeuse pour doubler un rôle féminin, on prenait un homme, on lui mettait une perruque, mais bon, ça... Surtout aujourd'hui avec le numérique et tout. Enfin,
oui, mais alors ça c'est marrant parce que vous en parlez pas du tout quasiment de.
Si, j'en ai parlé avec certaines. Le fait que les évolutions technologiques font que c'est de plus en plus dur de maquiller ça, enfin entre guillemets quoi. Et. Ouais. Bah, après c'était pas.
C'était pas le sujet.
Non, c'est pas ça, c'est que tu sais comment ça on fait quand on fait un documentaire et j'avais pas de réponse assez vraiment pertinente sur ce sujet-là qui me faisait que j'allais faire, tu vois, 2-3 minutes dessus. Voilà.
Parmi les autres, alors, le truc, c'est que tu démarres dans le film, tu démarres sur deux icônes principales qui, en fait, sont les tiennes, j'ai l'impression aussi, pour beaucoup de monde, hein, dans l'absolu, mais voilà, qui sont donc Ripley dans Alien et Sarah Connor dans Terminator. Quoi. Et j'aurais voulu savoir, en fait, pourquoi t'es parti sur ça. Parce que par exemple, j'allais dire pour des gens comme nous, il y a aussi le cinéma de Hong Kong. T'en as un petit peu touché
bien
tout
sûr,
à l'heure, voilà. Et c'est vrai que vous en parlez pas du tout dans.
Alors,
Dans le docu, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Bon, alors ça, c'est plus lié à la création du film. En fait, pour ce film-là, même si j'ai Perrine qui vient éclairer, prendre un peu de recul sur les personnages, et aussi Andrew Barker, qui est un journaliste de Variety, qui viennent un petit peu comme ça, ne pas être que dans, entre guillemets...
dans l'action,
dans l'action, dans l'instantané, en tout cas prendre du recul par rapport à ces personnages-là et tout ça. Je voulais que à chaque fois que je parle d'un film, j'ai quelqu'un qui ait travaillé aussi, quoi. Bon, alors forcément, moi je suis hyper fan de Terminator et de Terminator 2 et de Alien et de Aliens. Du coup, j'ai forcément essayer d'avoir des gens. Il se trouvait que Debbie Evans, j'ai commencé à la chercher parce que justement c'était la doublure de Lilta Hamilton sur T2. Donc après, forcément, elle a une carrière immense. Donc après, on a parlé de toute sa carrière. Mais en tout cas, mon but c'était d'avoir ces gens-là. Et après, Janet Goldstein
Vasquez dans Aliens. Dans Aliens,
donc, ouais. Si tu veux, ça me permettait. Pourquoi Ripley et Linda Hamilton? Parce que pour moi, ça me semblait les deux icônes du cinéma d'action, entre guillemets, presque principales, en tout cas, les plus iconiques. Et puis avec, tu vois, deux films de James Cameron, qui est peut-être le
réal féministe, on va dire, du cinéma d'action.
Voilà, ouais. Féministe du cinéma d'action. Donc ça me paraissait, essentiel, en tout cas, de parler de ces deux personnages-là. Et du coup, pour ce faire, je suis passé par Janet Goldstein et Debbie Evans. Et encore une fois, pourquoi je ne parle pas du cinéma peut-être de Hong Kong et tout ça, qui était dans les précédentes versions avec Jazz et tout ça. Parce que, pour être complètement transparent, j'ai essayé d'avoir Michel Yeo, j'ai essayé d'avoir... plein de gens comme ça qui pouvaient me parler de ce cinéma-là, mais les hasards de la production font que je les ai pas forcément
eus. Oui, c'est
ça,
parce qu'il faut préciser que quand tu fais un documentaire comme ça, ça se fait sur un planning assez serré par moment, et du coup, en fait, même si les gens peuvent être disponibles à un moment T, en fait, ils le sont pas forcément au moment où on en a besoin, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis tout le monde a son emploi du temps et tout ça, donc des fois t'arrives pas forcément à caler les gens. Et puis Michel Yeo, tu vois, c'est une grande star, c'est toujours un peu plus compliqué à avoir. Hein. Donc c'est pour ça que après une fois que j'aurais pu en parler, parce que tu vois Andrew m'en parlait, j'en parlais avec Perrine de ce cinéma-là, mais je me disais est-ce que j'ai envie de juste l'aborder comme ça alors que je peux prendre mon temps pour parler d'Aliens avec Janet Goldstein, ou je peux prendre mon temps pour parler de Terminator avec Debbie Evans, qui ont participé à la fabrication du film, tu vois.
Après, ce qui est super drôle, c'est que Janet Goldstein, quand tu la vois dans le documentaire, elle est hyper féminine et tout, tu la reconnais, enfin, elle l'est quand même dans l'absolu, dans Aliens et dans Terminator, mais tu la reconnaîtrais pas forcément, en fait. Et en plus, c'est flagrant parce que vous utilisez l'image du film, donc du coup, il y a le contraste. Et elle a une histoire un peu rigolote maintenant, c'est qu'en fait elle est plus actrice vraiment, en fait.
Je crois que ça fait 10-12 ans qu'elle tourne plus trop. Et elle a elle a créé une marque de sous-vêtements
à Los Angeles.
Ouais. Elle a plusieurs magasins d'ailleurs. Ouais. Elle me disait ça. Là, quand j'étais la voir, elle ouvrait un nouveau magasin à Atlanta, je crois.
D'accord.
Un truc comme ça.
Ouais. Et alors le truc est assez, donc ça c'est quand même assez marrant. Maintenant elle a 60 presque, voilà, 60
ouais,
plus,
ouais,
mais
plus de 60 ans.
Et l'autre truc qui est assez, je trouve assez cool dans le film, c'est que il y a ce moment où elle raconte cette anecdote sur Aliens, où il y a la fameuse phrase de Bill Paxton qui, au passage, disons quand même, t'es le sosie officiel de Bill Paxton. Hein, en tout cas moi je le pense, tu vois. Donc voilà, t'as Bill Paxton qui lui fait est-ce qu'on t'a déjà comparé, qu'on s'est déjà gouré, on t'a comparé à un mec, et elle fait non et toi quoi.
Ouais,
tu vois.
Bien sûr.
En gros c'était une phrase qui était
dans le script.
Mais comme elle le dit en fait dans le docu, elle dit moi je suis quand même une femme assez
féminine
avec des formes et tout. Et je trouvais que ça ne collait pas, que ça pouvait pas marcher. Même si j'ai une coupe militaire courte, etc., etc., c'était quand même difficile de me comparer avec un mec, quoi. Et de me confondre. Et en gros, c'est elle qui a eu l'idée de faire des
tractions
sur la barre, là. Et elle a proposé à Cameron qui a fait super idée, on y va quoi.
Ils ont re-set up le décor pour pouvoir mettre les barres et qu'elle puisse le faire.
Voilà, c'est
parce
ça.
Que c'est ce qu'elle explique dans le film. Hein, donc, en gros, elle est arrivée dans la scène et tu viens de le dire.
Je viens de le dire. Non, mais j'ai vu le film quoi. Attends, j'en parle aussi un petit peu, tu vois. Et donc voilà, il y a ça. Et alors le truc, c'est que du coup, tu pars aussi sur une autre logique. Qui est assez actuel dans l'absolu, mais je pense que c'est nécessaire aussi, c'est que en fait tu parles de la place de la femme dans ce milieu-là. Et ça, en fait, tous tes personnages, quand je dis personnages, je précise pour les gens qui nous écoutent, c'est les interviewés,
intervenants.
Les intervenants te disent que, c'est très difficile dans ce milieu-là, et deux, il y a quand même une évocation du Me Too, en fait. Et ça, pour toi, c'était important d'en parler
En fait, ça découlait assez logiquement. Hein, quand tu vois la construction du film, à partir du moment où tu vas interviewer des cascadeuses et que tu leur parles de leur métier, assez vite, elles vont venir à cet état de fait, quoi. Si tu veux que leur métier, on connaît hein, déjà, travailler dans l'audiovisuel, c'est compliqué. Travailler à Hollywood, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et être une femme et travailler dans un milieu masculin qui est là pour le coup la cascade, tu vois, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que tu mets des couches sur des couches et tout ça. Donc il faut vraiment être. Faut se bagarrer, quoi, au sens propre comme au figuré, là, pour le coup. Mais c'est vraiment des battantes, quoi, pour réussir à faire ça. Et comme on disait, donc déjà, il n'y avait pas beaucoup de place dans ce milieu-là pour les femmes à Hollywood, puisqu'ils préféraient mettre des perruques à des mecs pour...
Ouais, parce que là, la logique absurde, en fait,
qui est complètement absurde, quoi, tu vois, et puis ça se voit.
Enfin, ça fait des gags dans les Mel Brooks, quoi.
Ouais.
La folle histoire de l'espace, là.
Non, mais c'est vrai.
Tu sais, quand tu vois la princesse là qui fait un saut et tu vois le mec un moustache, tu vois.
Non, mais exactement, mais en fait, c'était pas si éloigné que ça, finalement, tu vois. Et donc, si tu veux, elles se battent pour avoir les rôles et tout ça. Janet le dit aussi, de toute façon. À Hollywood, et puis surtout avant, et encore plus dans le cinéma d'action, il y avait très peu de femmes, tu vois. Ou alors tu jouais la princesse, entre guillemets, tu vois, mais épleurée, etc. Ou tu étais la meuf du héros, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes qui allaient se battre et tout ça. Donc ça fait peu de rôle pour les cascadeuses, finalement. Ouais. Donc si tu veux, le
truc, c'est qu'elles disent que c'est même encore difficile, encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que.
Oui, bah de toute façon, tu vois. Bah après, nous, on a vu, là, c'est ce que dit le film aussi, on a vu ces trois dernières années quand même qu'il y avait, entre guillemets, beaucoup plus de films comme ça, tu
bien
vois,
sûr,
avec Charlize Theron, etc. C'est venu avant, avec Zoé Bell et tout ça. Bon, après, il y a beaucoup de séries B aussi, beaucoup de direct ou vidéo, mais ça fait quand même bosser ces personnes-là dans l'industrie,
ouais, bien
quoi,
sûr,
tu
hein.
vois. Et en fait, si tu veux, pour revenir... Le film parle de Me Too et tout ça, mais oui, c'était la continuité logique, tu vois. Alors après, il y a un truc, c'est que, on le dit aussi dans le film, il y a tout un truc où finalement, les cascadeuses, de fait, sont des gens, en tout cas dans le cinéma de l'ombre, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a toute une polémique là, et d'autant plus vu que Brad Pitt jouait un cascadeur dans Once Upon a Time in Hollywood et qu'il a gagné l'Oscar et qu'il, je crois qu'il a,
il a fait une référence dessus, ce serait bien de
le donner un Oscar au vrai cascadeur. Et il y a tout un truc où je pense que, et c'est ce que les femmes m'ont dit cascadeuses, c'est que il y a une culture de l'ombre, c'est-à-dire que les studios de toute façon, ils veulent toujours que le spectateur pense que l'acteur principal fait ses cascades lui-même, pour rajouter tu vois, de la légende
au
film.
Ce qui, en plus, atteint des logiques complètement absurdes aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a une anecdote là-dessus dans ton docu sur Debbie Evans qui raconte que quand elle a ouvert à un moment donné, je ne sais plus quel journal, qu'elle lit une interview de Carrie Anne Moss. Carrie Anne Moss dit en gros, j'ai fait toutes mes cascades sur l'autoroute.
Dans Matrix 2.
Dans Matrix Reloaded, la poursuite sur l'autoroute en moto. Et en gros, elles se sont appelées et elles ont échangé. Et apparemment, c'est le studio qui a plus ou moins.
En gros, Carrie Anne Moss donne une interview où. où elle cite Debbie Evans en disant...
Elle donne le crédit, quoi.
Elle donne le crédit de Debbie Evans en disant « Ouais, elle a fait les cascades, elle est super, etc. » Et quand Debbie ouvre le journal, elle voit que Carrie Ann Moss dit « Ouais, j'ai fait toutes mes cascades moi-même. » Et en fait, alors c'est ce qui se dit. Je sais pas où est la vérité là-dedans, mais moi, je pense qu'on est quand même proche de ça. Le studio passe derrière et dit « Non, non, non. »
Oui, de toute façon, il y a toujours des RP.
Il y a toujours des RP, etc. Donc tu m'enlèves ça, tu dis qu'elle a fait toutes ses cascades elle-même, et voilà quoi. Donc,
et je veux dire que la presse cinématographique, la presse cinéma n'est pas libre.
Ouais, je pense
bravo de dénoncer.
Je ne sais pas.
Voilà. Non, mais.
Je ne sais pas, mais bon.
Alors, on en a un petit peu parlé, mais il y a aussi ce truc de. T'as parlé un peu de Michel Yeoh, par exemple. Mais est-ce qu'il y avait une personnalité que tu aurais vraiment aimé avoir dans le documentaire que tu n'as pas pu avoir? Laquelle?
Bon, il y en a pas mal, hein. J'aurais bien aimé avoir déjà Zoé Bell,
ouais.
Que j'ai pas réussi à avoir parce que, alors je sais plus, mais je crois qu'elle était sur le tournage du Seigneur des Anneaux, là, la série, ouais. Je suis pas sûr parce qu'il y en avait pas mal. En fait, il y avait beaucoup de cascadeurs et tout ça qui étaient sur ce tournage-là au moment où j'ai tourné le film, en fait, et c'est qui se tournait en Nouvelle-Zélande et tout. D'accord. Ça. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là, mais Zoé Bell, j'aurais bien aimé, ouais, parce que c'est la cascadeuse la plus connue.
Parce qu'elle a eu des rôles principaux.
Chez Tarantino. Chez Tarantino. Et puis j'aurais bien aimé, encore une fois, le parti pris, c'était de parler de films avec les gens qui les avaient faits, en tout bien cas sûr, les cascadeuses et tout ça. Et du coup, je ne parle pas beaucoup de Tarantino, j'en parle même pas du tout, je crois. Parce que j'avais une première version où j'avais un petit truc sur Tarantino, mais je crois qu'on l'a enlevé après. Et du coup, je trouve ça dommage, quoi. Tu vois. Et j'aurais bien aimé avoir Zoé Bell dans ce film. J'ai essayé aussi d'avoir Famke Janssen parce que j'aurais bien aimé parler de James Bond et des James Bond Girls.
Ouais.
Parce qu'il y avait quand même tout un truc, en plus...
Ça, c'est un truc qui a changé aussi avec le temps, c'est-à-dire que les James Bond Girls, ils avaient cette espèce d'aura de poupée un petit peu glacée.
Un peu potiche et tout
voilà,
ça.
Voilà, et en fait, c'est vrai qu'avec... Alors, moi, je trouve que c'est pas avec Famke Janssen que ça a commencé. Il y a déjà un peu de ça dans les précédents, pas dans tous, mais dans, par exemple, dans Permis de tuer, il y avait des personnages un peu plus badass, quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est un truc où maintenant ils ont énormément essayé de changer les James Bond. Et je pense, moi, il y a Famke Janssen évidemment, mais il y a aussi Halle Berry dans.
Bien sûr.
Et puis t'as pas interviewé Halle Berry pour Catwoman, c'est quand même malheureux.
Si j'avais interviewé, j'aurais peut-être pas parlé que de Catwoman.
Ah si, mais... si. Quel film.
J'aurais pu aller interviewer Pitoff. mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir Famke Janssen. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu des persos avant, mais je trouvais que GoldenEye c'était un bon basculement aussi à ce niveau-là de la franchise,
ouais,
en essayant d'avoir des persos badass et notamment Famke Janssen.
Même si c'est objectivement un gros film de merde pour moi. Mais...
Oui, mais moi aussi, je l'aime pas beaucoup. Ouais. Mais je veux dire, si tu prends un peu de recul au-delà de la qualité du film,
bien sûr,
tu vois,
bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est intéressant.
Mais
alors, justement, en fait, pour terminer. C'est une question un peu double, mais en te lançant dans le sujet et finalement en travaillant la matière et tout, qu'est-ce que t'as appris que semblait pas si évident que ça en fait avant de débuter le sujet, et quel était éventuellement ton intervenant le plus pour toi, celui que t'as préféré en fait interviewer parce que t'as appris le plus de trucs possible en fait.
Je t'avoue que j'avais pas conscience, si tu veux, de la de la vraie difficulté en fait de faire ce métier de cascadeuse. Déjà qu'il y a un métier difficile en soi, c'est-à-dire que Natasha Hopkins, par exemple, on dirait pas du tout dans le film, mais elle a quand même déjà 40 ans, voire 41 ou 42, je sais plus. Et elle me disait, ouais, j'ai le dos brisé, tu vois. Mais vraiment, elle a beaucoup souffert, quoi, pour faire ce film. Donc, il y a une souffrance qui est déjà inhérente au métier.
Ce film, tu parles, c'est Mad Max, c'est sur Mad Max.
Dans sa carrière, hein, je veux dire. Mais donc, il y a une souffrance qui est inhérente au métier parce que les chutes, tu vois. Et elle le dit bien dans le film, genre... quand elle dit ouais j'ai sauté du train, je l'ai fait 6 fois et c'était sous la pluie et machin. Et ben voilà, c'est des métiers qui sont quand même difficiles physiquement et difficiles moralement aussi, parce que passer, je sais pas, 6 mois, tu vois, courir, sauter, se faire mal tout le temps, etc. Et c'est Natasha aussi qui le dit dans le film, et jamais avoir un Oscar ou jamais être reconnu de la profession, alors que quelque part, sans dénigrer la profession, mais la maquilleuse et la coiffeuse sont susceptibles de recevoir un Oscar. Bon, c'est vrai que c'est difficile à accepter pour ces femmes-là. Et je pense que j'avais pas forcément Oui, tu vois, en tant que fan de films d'action, tu te dis, ouais, il y a des cascades, machin, mais tu te rends pas compte de la difficulté.
Non, ça, c'est
de...
parce que t'es qu'un sale mâle blanc cisgenre.
Ouais, sans doute. Non, non, mais...
Mais
vraiment, il y a de la difficulté, mais de la difficulté technique, etc., physique, de ces cascades-là, quoi. Et après, mon intervenant... j'ai pas vraiment d'intervenant de préféré parce que c'était toujours cool de vraiment et puis c'était mortel de tu vois de rencontrer Jeanette Goldstein, de pouvoir parler une heure et demie, deux heures avec elle, c'était super de j'étais vraiment captivé parce que moi bon, Debbie Evans forcément c'est un docu de 52 minutes mais on a fait je sais pas deux heures et demie d'interview et j'étais avec elle est mariée avec Lance merde je me rappelle plus de son nom de famille mais en tout cas il était aussi cascadeur, il a fait Cliffhanger et tout ça donc si tu veux j'étais chez
quoi,
eux.
Tu veux dire que c'est pas Stallone qui est accroché à la montagne
voilà. Non, non, mais...
tout change.
Non, mais tu vois, c'est vraiment des moments qui sont super. Après, il y a des interviews aussi qui sont pas dans le film, donc on va pas en parler, mais Kurando Mitsutake, qui est un réal de film de série B, etc., mais qui était super intéressant, avec qui j'ai pas mal discuté, que j'ai pas réussi à mettre dans le film, parce que justement, il était beaucoup plus sur... une approche asiatique entre guillemets et que du coup plus masculine et que du coup je laissais beaucoup plus de place aux femmes pour parler du coup ça me semblait moins pas intéressant mais en tout cas pertinent
dans l'angle choisi
de mettre dans le film quoi tu vois.
De toute façon, c'est clair qu'après, les films se font aussi au fur et à mesure, sur un documentaire, plus qu'encore qu'ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver la matière dans tout ce qu'on a récupéré, quoi.
Ouais. Et puis, tu vois, j'ai toute une partie sur le fait d'être de la doublure, tu vois, de justement ce côté sur l'ombre, enfin, entre guillemets, des shadow man, en tout cas shadow woman, comme elle s'appelle aux États-Unis, et tout ça, que je trouvais intéressant, que j'avais pas forcément... tu l'as dans un coin de ta tête, mais t'as pas mis le focus dessus, et du coup, là, je trouvais ça intéressant d'en parler. J'ai bien aimé l'interview avec Kristanna Loken aussi. Là, qui
oui, c'est vrai qu'elle est dedans, dans la Terminatrix.
Ouais.
Alors,
le TX.
Elle parle. C'est assez étonnant parce que moi, je l'ai interviewée à l'époque de Terminator 3, à Cannes en plus. Et en fait, c'était, je crois, pour moi, hein, personnellement, en tant que journaliste, une des pires interviews. Parce que en fait j'avais 12 minutes je crois j'ai écourté au bout de 6 minutes parce qu'elle ne voulait pas répondre en fait elle ne répondait littéralement pas et là c'est, je me dis mais elle parle c'est ouf en fait
puis elle est super en
plus elle te dit des super trucs et tout
Kristanna et puis moi on a fait quoi une heure et demie ou deux heures et vraiment elle était mortelle hyper cool et super intéressante mais je pense que aussi c'est la différence d'interviewer je sais pas une nana de 25 ans auréolée de Terminator 3 et qu'on a pris plein la gueule en plus sur la production et peut-être qui s'est fermée petit à petit et aujourd'hui
c'est possible
une femme de 40 ans qui a un regard sur Hollywood et tu vois
soyons honnêtes n'est plus non plus la star
qui n'est plus la star
éventuellement promise à l'époque quoi.
Ouais bien sûr mais qui a traversé aussi tout ça avec tu vois et puis c'est vraiment une dame, hein, Kristanna Loken. Je trouvais là de la classe. Hein, c'est
De toute façon, elle est charismatique, c'est clair.
Ouais, elle est super charismatique, mais je veux dire, elle pèse ses mots et tout.
Mais elle est très bien. C'est vrai que
franchement, moi, c'était une super interview, quoi. Après, on est resté, on a discuté de plein de trucs. Tu vois, on a bu un café, on a discuté d'Hollywood et tout ça. Elle a un regard super là-dessus, hyper lucide. C'est
d'accord.
Vraiment que elle est hyper intéressante. Et là, elle est en train de monter une espèce de boîte de prod qu'elle essaye en coprod, en financement participatif. Enfin, elle a plein d'idées pour justement travailler différemment à Hollywood, essayer de monter des projets différents. Elle est super, vraiment une nana géniale, quoi.
Action Woman,
ouais.
10 mars,
19h50.
Ciné plus frisson.
Une seule fois,
Ciné plus.
Ouais. C'était ciné cinéma avant.
C'est devenu ciné plus. On confond tout quoi.
Ouais.
Merci Jérém.
Merci à vous. C'était sympathique.
Tout à fait. C'était sympathique. On va aller prendre un café maintenant.
Exactement.
Et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook. YouTube pour les vidéos, CaptureMag.net sur Spotify, sur Deezer. Alors on se quitte sur quelques notes de la musique du film, du documentaire, par notre ami Thomas Capot. Voilà, à la semaine prochaine.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.